mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon à croire que tout le monde aime la même chose?
C'est l'empathie.
Et il y en a pour toutes les sensibilités.
C'est quoi l'empathie?
L'empathie. Pour le grand Robert, l'empathie est la capacité de s'identifier à autrui et de ressentir ce qu'il ressent. Pour Weed le char, c'est le processus de copenser qui permet de réaliser un effet d'empathie grâce à des mécanismes d'identification et d'inférence. Pour Lebovici, l'empathie serait un processus affectif préverbal, comme l'empathie mère-bébé. Et pour Freud, l'empathie relève d'un ensemble énergico-économique où la relation à l'autre est envisagée dans le but de décharge énergétique. On se mettrait à la place de l'autre tout simplement pour faciliter cette démarche.
Ah, oh. L'écologie, c'est de l'empathie?
En quelque sorte, mais c'est aussi de la logique.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture, attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbères.
Au sommaire, ce mois-ci, dans les allumeurs de réverbères, nous commencerons par un conte d'Iran, intitulé « Kayvan le Brave », adapté par Elisabeth Lair, paru en 2009. Cet instant sera suivi de la rubrique « Texte historique ». Nous y entendrons la traduction du discours « I have a dream » de Martin Luther King, prononcé le 28 août 1963. Viendra ensuite la rubrique « Environnement », nous partirons dans le jardin d'Anne-Laure qui nous parlera « Design paysager », « Délimitation », « Petites barrières » et « Paravents » à réaliser grâce au tressage de branches. Et pour clore l'émission, l'instant « Code du travail et conventions collectives » où nous entendrons les réglementations liées aux équipements de protection individuelle. À tous, chers auditeurs, recevez ce vœu. Force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Bonne lumière à tous. Allez hop, c'est parti, vous écoutez les allumeurs de réverbères.
Les allumeurs de réverbères vous présentent l'instant qui compte.
Hey, for you guys, take one moment to look at the overhead windows on Discovery.
Okay, Ronnie.
Les allumeurs de réverbères.
Kayvan le Brave, conte d'Iran. Adaptation de Elisabeth Lair, édition Circonflexe 2009.
Il y a longtemps, un apprenti tisserand du nom de Kayvan. C'était un garçon costaud, aux épaules larges et aux longues jambes, qui ne connaissait du monde que son atelier de tissage et la petite maison qu'il partageait avec sa mère. Il passait ses journées assis devant son métier à tisser, et le soir, il rentrait chez lui, mangeait le souper que sa mère lui avait préparé et allait se coucher. Un jour, alors qu'il envoyait la navette de gauche à droite, il vit deux souris qui mordillaient le tissu qu'il était en train de confectionner. Il fut tellement surpris que la navette lui échappa des mains, vola et percuta les deux souris en même temps, les tuant sur le champ. Les autres apprentis, qui aimaient taquiner Kayvan, se mirent à taper du pied et à applaudir. « Waouh !» s'écrièrent-ils. « Vous avez vu ça? Quel guerrier! Quel homme !» Et ils commencèrent à chanter. Kayvan le brave, avec sa flèche et son arc, tua deux lions en un seul coup. Kayvan, qui croyait tout ce qu'on lui disait, rougit de plaisir et de fierté. « Tu perds ton temps ici, » dit un des apprentis en faisant un clin d'œil aux autres. « Un archer, voilà ce que tu devrais être, un chasseur, dans le désert, tu gâches ton talent ici. » « Vraiment ? Tu penses vraiment ce que tu dis ? » demanda Kayvan. Un chasseur, bien sûr, c'est évident, répondirent en chœur les autres, se cachant derrière leurs mains pour rire. Leurs paroles allumèrent un feu dans le cœur de Kayvan. Il se leva et quitta l'atelier de tissage sans même prendre la peine de décrocher sa veste. Il courut ensuite directement au bazar. Là, il acheta un arc et des flèches. C'était un bon arc, fin et solide, dont les flèches étaient droites et aiguisées. Mais Kayvan n'était pas satisfait. Il manquait quelque chose. Il finit par comprendre ce que c'était.
« Je veux que vous écriviez dessus »,
dit-il en tendant l'arc au commerçant.
« Écrire ? Mais quoi ?»
répliqua l'homme surpris. Kayvan redressa les épaules et dit fièrement.
« Kayvan le brave, avec sa flèche et son arc, tua 2 lions en un seul coup. »
Le commerçant le regarda avec respect.
« 2 lions ? Eh bien, monsieur, tout de suite, monsieur !»
Quand le travail fut fini, Kayvan accrocha l'arc à son épaule et se dirigea vers le désert d'un pas énergique à la recherche de gibier. Il marcha, marcha, jusqu'à ce que fatigué et assoiffé, il vit un arbre et sous l'arbre un ruisseau. Il s'arrêta et se désaltéra longuement d'une eau bien fraîche. L'endroit près du ruisseau était ombragé et agréable.
« Même un grand chasseur a besoin de se reposer de temps à autre, » se dit-il.
Aussitôt dit, aussitôt fait, il accrocha son arc et ses flèches à l'arbre, s'allongea et s'endormit. Peu après, un capitaine de la cavalerie du chat passa par là à cheval. Il s'arrêta, regarda Kayvan, puis vit l'arc et la flèche dans l'arbre.
« Que fait ici un garçon, jeune et costaud comme ça tout seul ici ?»
se demanda-t-il. « Et qui a-t-il décrit sur son arc ?» Il se pencha pour lire l'inscription.
« 2 lions en un seul coup ! Eh bien !»
Il descendit de son cheval, s'assit près de Kayvan, qui se réveilla en sursaut, et le considéra d'un œil à moitié endormi.
« Eh bien, mon garçon, qui es-tu ? »
aboya le capitaine. Kayvan le dévisagea, les yeux plissés, le regard encore incertain. Il ne savait plus où il était.
« Kayvan le brave !» « Avec sa flèche et son arc !»
commença-t-il d'une voix faible.
« Oui, oui, j'ai bien lu tout ça, mais que fais-tu ici ?»
demanda le capitaine.
« Je suis venu chasser !»
répondit Kayvan en se redressant.
« Je vois. J'imagine que tu vises bien. Portée, précision, distance et tout le reste. »« Oh oui !»
dit fièrement Kayvan, maintenant complètement réveillé et pensant aux souris.
« Parfait !»
s'écria le capitaine. « Tu es tout à fait le genre de garçon dont on a besoin dans l'armée. Tu aimerais te battre pour le chat et pour ton pays, n'est-ce pas ? L'honneur et la gloire, la victoire ou la mort et tout le tralala !»«
Me battre ? » demanda Kayvan d'un air perplexe. « La gloire ? Est-on en guerre ? » ?»«
Malheureusement, non. Mais cela ne va sûrement pas tarder, » répondit le capitaine en remontant sur son cheval.
« Suis-moi !»
Alors, Kayvan entra dans l'armée et vécut confortablement aux frais du chat, mangeant autant qu'il voulait et marchant au pas dans son uniforme. Il ne disait pas grand-chose, mais avait toujours l'air majestueux et brave.
« C'est un grand champion, vous savez, » chuchotaient-ils tous. « Il a tué 3 lions, ou était-ce 4, avec une seule flèche ?»
Bien assez tôt, une guerre éclata. Tout comme le capitaine l'avait prévu, celui-ci vint trouver Kayvan en faisant claquer sa cravache.
« Ta chance de montrer de quoi tu es fait est arrivée, mon garçon. J'imagine que tu as dû ronger ton frein. Il n'y aura pas moyen de t'arrêter maintenant. »«
Hein ?»
dit Kayvan.
« Va aux écuries. Les palefreniers t'ont scellé un cheval. Et puis, direction le champ de bataille. »
Kayvan n'était jamais monté sur un cheval. Dans les écuries, il regarda d'un air consterné l'immense cheval de guerre que les palefreniers lui amenèrent.
« Je n'arriverai jamais à rester sur cette chose, »
pensa-t-il. Alors il dit au palefrenier,
« Attachez-moi les pieds ensemble sous son ventre. »
Les palefreniers se dépêchèrent d'obéir. « Il nous réserve sûrement quelque chose d'incroyable, » murmurèrent-ils. Les trompettes des ennemis sonnèrent au loin. Le cheval de guerre savait ce que leur musique signifiait. Il adorait se battre. Il piaffa, aplatit ses oreilles et sortit comme une flèche de l'écurie. Kayvan faillit lâcher les rênes et dut s'accrocher à la crinière du cheval.
« À l'aide ! Arrête-toi »
cria-t-il. lâchant son arche et ses flèches. Mais le cheval s'emballa davantage, faisant jaillir des étincelles sur les pierres avec ses grands sabots ferrés, franchissant les ruisseaux, sautant par-dessus les fourrés et se faufilant entre les arbres, tandis que le son des tambours et des trompettes de l'ennemi se rapprochait. Ne sachant plus quoi faire, Kayvan, dans sa course folle, s'agrippa à une branche, dans l'espoir que le cheval déraperait et s'immobiliserait, mais celui-ci allait si vite qu'il déracina l'arbre. Et ils continuèrent à courir à toute allure, Kayvan et l'arbre tous deux enchevêtrés sur le dos du cheval. Les ennemis étaient maintenant en vue, les lignes de leurs lances et leurs casques scintillaient au soleil. Mais Kayvan, l'arbre et le cheval galopaient droit vers eux. Et cette vision était si terrifiante que même ces hommes qui étaient parmi les plus rudes tremblèrent comme des bébés.
« Je ne peux plus m'arrêter! Il s'est emballé !» criait Kayvan.
Les soldats ennemis se regardèrent, leurs visages livides de peur.
« Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne faut pas s'arrêter! Allez-y! Il y a toute une armée derrière lui, c'est certain! Il leur crie de le suivre! Et s'ils sont tous comme ce grand champion qui peut déraciner un arbre, nous n'avons pas la moindre chance !»
Alors, l'un après l'autre, ils battirent en retraite, poursuivis et harcelés sans relâche par les soldats du chat. Le chat fut tellement satisfait de Kayvan qu'il lui offrit des plats en or, des vêtements raffinés, des bijoux, des palais et des jardins pleins de grenadiers. Il le nomma commandant en chef de toutes ses armées. Mais Kayvan, qui avait vu suffisamment la guerre, ne voulut plus jamais se battre. Il garda ses armées bien en sécurité et aussi longtemps qu'il vécut, tout le pays connut la paix et l'abondance.
Les allumeurs de réverbères.
Maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison.
Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes, réalistes, positifs.
Aventuriers?
Des résistants, avec un grand R.
Oh. Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils s'occupent des autres.
Oh.
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne. On prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
I have a dream. Martin Luther King, 28 août 1963.
Je suis heureux de participer avec vous aujourd'hui, à ce rassemblement qui restera dans l'histoire comme la plus grande manifestation que notre pays ait connue en faveur de la liberté. Il y a un siècle de cela, un grand Américain qui nous couvre aujourd'hui de son ombre symbolique signait notre acte d'émancipation. Cette proclamation historique faisait comme un grand phare briller la lumière de l'espérance aux yeux de millions d'esclaves noirs marqués au feu d'une brûlante injustice. Ce fut comme l'aube joyeuse qui mettrait fin à la longue nuit de leur captivité. Mais 100 ans ont passé et le noir n'est pas encore libre. 100 ans ont passé et l'existence du noir est toujours tristement entravée par les liens de la ségrégation, les chaînes de la discrimination. 100 ans ont passé et le noir vit encore sur l'île solitaire de la pauvreté, au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. 100 ans ont passé et le noir languit, toujours dans les marches de la société américaine et se trouve en exil dans son propre pays. C'est pourquoi nous sommes accourus aujourd'hui, en ce lieu, pour rendre manifeste cette honteuse situation. En ce sens, nous sommes montés à la capitale de notre pays pour toucher un chèque, en traçant les mots magnifiques qui forment notre constitution et notre déclaration d'indépendance. Les architectes de notre République signaient une promesse dont héritait chaque Américain. Au terme de cet engagement, tous les hommes, les Noirs, oui, aussi bien que les Blancs, se verraient garantir leurs droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Il est aujourd'hui évident que l'Amérique a failli à sa promesse en ce qui concerne ses citoyens de couleur. Au lieu d'honorer son obligation sacrée, l'Amérique a délivré au peuple noir un chèque sans valeur, un chèque qui est revenu avec la mention « provision insuffisante ». Mais nous refusons de croire que la banque de la justice ait fait faillite. Nous ne pouvons croire qu'il n'y ait pas de quoi honorer ce chèque dans les vastes coffres de la chance en notre pays. Aussi sommes-nous venus encaisser ce chèque, un chèque qui fournira, sur simple présentation, les richesses de la liberté et la sécurité de la justice. Nous sommes également venus en ce lieu sanctifié pour rappeler à l'Amérique les exigeantes urgences de l'heure présente. Il n'est plus temps de se laisser aller au luxe d'attendre, ni de prendre les tranquillisants des demi-mesures. Le moment est maintenant venu de réaliser les promesses de la démocratie. Le moment est venu d'émerger des vallées obscures et désolées de la ségrégation pour fouler le sentier ensoleillé de la justice raciale. Le moment est venu de tirer notre nation des sables mouvants de l'injustice raciale pour la hisser sur le roc solide de la fraternité. Le moment est venu de réaliser la justice pour tous les enfants de Dieu. Il serait fatal à notre nation d'ignorer qu'il y a péril en la demeure. Cet étouffant été du légitime mécontentement des Noirs ne se terminera pas sans qu'advienne un automne vivifiant de liberté et d'égalité. 1963 n'est pas une fin, mais un commencement. Ceux qui espèrent que le noir avait seulement besoin de laisser fuser la vapeur et se montrera désormais satisfait, se préparent à un rude réveil si le pays retourne à ses affaires comme avant. Il n'y aura plus ni repos, ni tranquillité en Amérique tant que le noir n'aura pas obtenu ses droits de citoyen. Les tourbillons de la révolte continueront d'ébranler les fondations de notre nation jusqu'au jour où naîtra l'aube brillante de la justice. Mais il est une chose que je dois dire à mon peuple, debout sur le seuil accueillant qui mène au palais de la justice. En nous assurant notre juste place, ne nous rendons pas coupables d'agissements répréhensibles. Ne cherchons pas à étancher notre soif de liberté en buvant à la coupe de l'amertume et de la haine. Livrons toujours notre bataille sur les hauts plateaux de la dignité et de la discipline. Il ne faut pas que notre revendication créatrice dégénère en violence physique. Encore et encore, il faut nous dresser sur les hauteurs majestueuses où nous opposerons les forces de l'âme à la force matérielle. Le merveilleux militantisme qui s'est nouvellement emparé de la communauté noire ne doit pas nous conduire à nous méfier de tous les blancs. Comme l'atteste leur présence aujourd'hui en ce lieu, nombre de nos frères de race blanche ont compris que leur destinée est liée à notre destinée. Ils ont compris que leur liberté est inextricablement liée à notre liberté. Nous ne pouvons marcher tout seuls au combat. Et au cours de notre progression, il faut nous engager à continuer d'aller de l'avant ensemble. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Il en est qui demande aux tenants des droits civiques « Quand serez-vous enfin satisfaits ?» Nous ne pourrons jamais être satisfaits tant que le noir sera victime des indicibles horreurs de la brutalité policière. Nous ne pourrons jamais être satisfaits tant que nos corps recrus de la fatigue du voyage ne trouveront pas un abri dans les motels des grandes routes ou les hôtels des villes. Nous ne pourrons jamais être satisfaits tant que la liberté de mouvement du noir ne lui permettra guère que d'aller d'un petit ghetto à un ghetto plus grand. Nous ne pourrons jamais être satisfaits tant que nos enfants seront dépouillés de leur identité et privés de leur dignité par des pancartes qui indiquent « Seuls les Blancs sont admis ». Nous ne pourrons être satisfaits tant qu'un Noir du Mississippi ne pourra pas voter et qu'un Noir de New York croira qu'il n'a aucune raison de voter. Non, nous ne sommes pas satisfaits et nous ne serons pas satisfaits tant que le droit ne jaillira pas comme les eaux et la justice comme un torrent intarissable. Je n'ignore pas que certains d'entre vous ont été conduits ici par un excès d'épreuves et de tribulations. D'aucuns sortent à peine de l'étroite cellule d'une prison. D'autres viennent de régions où leur quête de liberté leur a valu d'être battus par les tempêtes de la persécution, secoués par les vents de la brutalité policière. Vous êtes les pionniers de la souffrance créatrice. Poursuivez votre tâche, convaincus que cette souffrance imméritée vous sera rédemption. Retournez au Mississippi, retournez en Alabama, retournez en Caroline du Sud, retournez en Géorgie, retournez en Louisiane, retournez à vos taudis et à vos ghettos dans les villes du Nord en sachant que, d'une façon ou d'une autre, cette situation peut changer et changera. Ne nous voterons pas dans les vallées du désespoir. Je vous le dis ici et maintenant, mes amis, même si nous devons affronter des difficultés aujourd'hui et demain, je fais pourtant un rêve. C'est un rêve profondément ancré dans le rêve américain. Je rêve que, un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux. Je rêve que un jour, sur les rouges collines de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve que un jour, l'état du Mississippi lui-même, tout brûlant des feux de l'injustice, tout brûlant des feux de l'oppression, se transformera en oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau, mais à la nature de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. Je rêve que, un jour, même en Alabama, où le racisme est vicieux, où le gouverneur a la bouche pleine des mots interposition et nullification, un jour, justement, en Alabama, les petites filles et petits garçons noirs, les petites filles et petits garçons blancs pourront tous se prendre par la main comme frères et sœurs. Je fais aujourd'hui un rêve. Je rêve que un jour, tout vallon sera relevé, toute montagne et toute colline seront rabaissées, tout éperon deviendra une plaine, tout mamelon une trouée, et la gloire du Seigneur sera révélée à tous les êtres faits de chair tout à la fois. Telle est mon espérance. Telle est la foi que je remporterai dans le Sud. Avec une telle foi, nous serons capables de distinguer dans les montagnes de désespoir un caillou d'espérance. Avec une telle foi, nous serons capables de transformer la cacophonie de notre nation discordante en une merveilleuse symphonie de fraternité. Avec une telle foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter ensemble, d'aller en prison ensemble, de nous dresser ensemble pour la liberté, en sachant que nous serons libres un jour. Ce sera le jour où les enfants de Dieu pourront chanter ensemble cet hymne auquel ils donneront une signification nouvelle. Mon pays, c'est toi. Douce terre de liberté, c'est toi que je chante. Pays où sont morts nos pères, pays qui fit la fierté des pèlerins, du flanc de chaque montagne que résonne la liberté. Et si l'Amérique doit être une grande nation, cela doit devenir vrai. Aussi, que résonne la liberté depuis les prodigieux sommets du New Hampshire, qu'elle résonne depuis les puissantes montagnes de l'État de New York, qu'elle résonne depuis les hautes Alléghanies de Pennsylvanie, qu'elle résonne depuis les sommets neigeux des Rocheuses du Colorado, qu'elle résonne depuis les pentes capricieuses de la Californie, mais cela ne suffit pas. Qu'elle résonne depuis la Stone Mountain de Géorgie, qu'elle résonne depuis la Lookout Mountain du Tennessee, qu'elle résonne depuis chaque colline et chaque butte du Mississippi, qu'elle résonne du flanc de chaque montagne. Quand nous ferons en sorte que la liberté puisse sonner, quand nous la laisserons carillonner depuis chaque village et chaque hameau, depuis chaque état et chaque cité, nous pourrons hâter la venue du jour où tous les enfants de Dieu, les noirs et les blancs, les juifs et les gentils, les catholiques et les protestants, pourront se tenir par la main et chanter les paroles du vieux négro spiritual, libre, enfin, merci Dieu Tout-Puissant, nous voilà libres, enfin.
La rubrique environnement.
Les allumeurs de réverbères.
Il y a un sujet qui peut être très intéressant. Dans l'idée de se demander ce qu'on peut faire avec les arbres de nos jardins, je pense à l'idée d'utiliser les bois de nos jardins et vraiment le bois juste des tailles pour en faire des petites clôtures, barrières de délimitation de parterre. Imaginez dans votre tête une délimitation de parterre ou de petits chemins très peu haute, donc une mini clôture qui monterait à peut-être 60-70 cm grand maximum en hauteur, et de réaliser tout simplement des tressages pour faire ces petites clôtures. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, il suffit de mettre plusieurs piquets, donc de la longueur que vous souhaitez pour cette petite clôture tressée. Je mettrai, moi, je pars un piquet tous les 70 cm à peu près. Les piquets, bien sûr, mis de façon verticale, bien enfoncée dans le sol. Le mieux étant, idéalement, de passer ces piquets à l'huile, de l'huile de lin ou même de l'huile de friture, si vous voulez faire de la récupération qui a du sens, parce que on ne sait pas trop quoi en faire de nos huiles de friture. Nous, je sais qu'à la maison, tout ce qui est bois qui vit dehors toute l'année, on les passe à l'huile de friture. Et ça leur permet d'avoir une longue durée de vie dans le temps, en fait. Donc, ces piquets que vous avez préalablement passés à l'huile de friture, vous les mettez dans le sol. Alors, le mieux, c'est d'avoir une petite masse ou un bon marteau. Et ensuite, entre ces piquets, on va venir tresser différents fins branchages. Et bien sûr, le végétal qui est le plus utilisé, c'est l'osier. On en fait des paniers, on le sait. C'est aussi des super matières pour faire des petites clôtures. L'osier, c'est du saule. Il y a des tas de types de saules. Et globalement, la plupart des saules sont toutes indiquées pour faire des tressages, ce qui est plutôt cool, parce que c'est vrai que des saules, on en trouve beaucoup, que ce soit chez nous ou à l'occasion d'une balade après une tempête. S'il y a eu une tempête, il va y avoir quelques branchages par terre, on peut les ramasser, les laisser un petit peu sécher, mais pas trop. C'est plus facile de tresser quand c'est un petit peu frais quand même. Et voilà, obtenir des jolies clôtures faciles à réaliser, rustiques certes, on apprend en faisant ce genre de choses, c'est un petit peu instinctif. Bien sûr, ça reste des choses qui sont plutôt rustiques, donc si vous êtes plutôt quelqu'un avec des goûts plutôt modernes, il est possible que ça ne vous convienne pas du tout. Mais si vous aimez bien un petit peu l'aspect rustique et fait par vous-même des choses, vous êtes vraiment un bon candidat pour ces clôtures. Bien sûr, ces petites clôtures, je ne devrais pas appeler ça comme ça, ouais, des petites barrières de délimitation, ne tiennent pas très longtemps dans le temps, ça reste du bois. Donc là encore, préférez les bois les plus imputrescibles que vous ayez autour de vous. Dans une chronique précédente, on a parlé du robinier qui est super solide et assez imputrescible. Je pense aussi au Polonia et je pense aussi à tous les bois de pin.
Voilà, les familles des pins, donc les cyprès, les ifs également, les fameux Taxus baccata. Donc tous ces arbres qui sont... tous les résineux vont être vraiment assez solides dans le temps. Maintenant, ça ne va pas durer toute une vie. Donc, on va aller miser sur une longévité d'environ 5 ans maximum. Je pense aussi dans l'idée de, on va dire, l'aménagement paysager du jardin, parce que quand on souhaite faire des petites délimitations, c'est pour donner un petit peu de lisibilité à notre jardin, ou parce qu'on aime tout simplement un petit peu designer notre environnement. Je pense aussi à, en tout cas nous, notre jardin, et il y en a beaucoup dans nos voisins aussi qui s'y prêtent, qui ont des jardins en plusieurs niveaux. Ça peut être intéressant de réaliser des marches pour... simplement délimiter les différents niveaux des jardins. Et typiquement, si vous avez des grands arbres chez vous et que vous les élaguez, alors souvent quand on élague, donc quand je dis élaguer, c'est élaguer des grandes branches, je dis pas, surtout pas élaguer, ne tuer aucun arbre qui va bien, mais si vous élaguez de grandes branches, des grandes branches qui seraient près de vos toits ou près d'une habitation voisine ou autre, on le fait tous au moment de l'automne, enfin tous les gens qui ont des arbres s'attellent à ça à un moment donné. Gardez bien sûr vos branches élaguées. Souvent, on a tendance, pour ceux qui ont des cheminées ou des poêles, à les faire sécher pour les utiliser en combustible. Mais c'est vrai que garder des très grandes branches peut être super pour réaliser des escaliers. Que ce soit des escaliers à très grande marche ou à plus petite marche, il suffit d'ébiter les troncs en question. Si vous élaguez, ne jetez surtout pas vos déchets, j'ai même pas envie de les appeler vos déchets, mais ne jetez pas vos branches, ne jetez pas même vos petites branches. Les petites branches peuvent servir à faire du petit bois. Donc évitez d'aller à la déchetterie déposer vos déchets végétaux, mais préférez peut-être garder vos déchets pour les réutiliser de façon intelligente, à la fois pour votre habitation ou pour votre jardin. Et pour finir dans l'utilisation de nos pseudos, déchets végétaux au jardin, je pense à l'idée de ce que j'appelle personnellement les paravents végétaux, mais qui sont aussi un petit peu similaires au principe de la haie sèche. Donc là, on va être non plus sur des petites barrières de quelques dizaines de centimètres de haut, mais plutôt sur l'idée d'un paravent. Donc on est, c'est aussi l'idée d'une clôture de délimitation de maison, donc disons 1,50 m, et on peut bien sûr aller jusqu'à 2 mètres ou plus si ça nous fait plaisir. Donc, c'est quoi le principe de la haie sèche? Alors c'est le même principe que la clôture de tout à l'heure, donc bien sûr on va mettre des piquets, donc là des piquets de grande taille, donc je vous dis, disons 2 mètres de haut par exemple. Là encore, choisissez des bois imputrescibles. Alors bien sûr, ça va être les mêmes choses, des bois qui vont tenir le plus longtemps dans le temps. Et là, l'idée ne va plus être de venir tresser avec des branches dénudées de leurs feuilles, mais de tresser avec des branches assez grandes qui ont toujours leur feuillage. Et là, je pense que les... types d'arbres et de végétaux les plus adaptés pour réaliser les haies sèches, je pense tout de suite à tout ce qui va être résineux. Par exemple, nous avons réalisé un paravent végétal avec un arbre un résineux qui s'appelle le cryptomeria et qui fait comme ça des touffes de feuilles résineuses qui tiennent encore à la branche même une fois sèche. Le paravent végétal qu'on a devant nous, il a été réalisé il y a peut-être 3 ans. Et clairement, même si toutes ces branches sont sèches, les feuilles de ces résineux qui forment comme des sortes d'épis, on va dire, je ne sais pas trop comment le dire, une fois que ça a séché, restent sur la branche, ne tombent pas. Ce qui permet, quand on commence à tresser quelques branches entre elles, ça fait vraiment un vrai paravent, donc une vraie protection visuelle. Ça peut être le premier intérêt. Si vous voulez délimiter un endroit avec un voisin, par exemple, ou chez nous, on a choisi le paravent végétal pour délimiter un endroit où on avait des cuves d'eau. Donc du plastique, c'est pas très beau à l'œil, on voulait pas trop l'avoir sous nos yeux. Donc voilà, on a fait un paravent végétal pour protéger de ces grosses cuves de plastique. Et l'autre intérêt,
c'est bien évidemment au-delà de la protection visuelle, c'est que ce type de haies végétales, on va dire, ou de paravents végétaux vont venir abriter plein de petites bêtes. Parce que bien sûr, il y a plein de petits recoins, donc en fait, il y a toute la mode de ce qu'on appelle les hôtels à insectes. Bah écoutez, finalement, les insectes, ce qu'ils veulent, ce sont des tas de végétaux dans lesquels ils vont pouvoir faire leur petite maison ou leur petit cocon, etc., en fonction des types d'insectes. Donc non seulement ça peut être chouette pour de l'aménagement de jardin, mais là encore, pour toujours essayer de faire venir toujours plus de vie, toujours plus de biodiversité dans vos jardins.
Les allumeurs de Réverbère vous présentent l'instant code du travail et convention collective.
C'est les allumeurs de Réverbère.
Les équipements de protection individuelle. Article R4323-91. Les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils ne sont pas eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à accomplir et avec les principes de l'ergonomie. Article R4323-92. Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent, en tant que de besoin, la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister. Article R4323-93. En cas de risque multiple exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants. Article R4323-94. Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnement non ionisants sur l'œil sont tels que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de danger. Article R4323-95. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fourniture des équipements de protection individuelle prévues par l'article L1251-23 pour les salariés temporaires. Article R4323-96. Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leurs attributaires. Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées sont prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs. Article R4323-97. Les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée de leur port. Elle prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l'exposition au risque et les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur et les performances des équipements de protection individuelle en cause. Article R4323-98. Les équipements de protection individuelle sont utilisés conformément à leur destination. Pour plus d'informations, rendez-vous à la sous-section 1 de la section 9 du chapitre 3 du titre 2 du livre 3 de la quatrième partie de la partie réglementaire du Code du travail.
C'est beau ça, maman, hein ?
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Allumeurs de Réverbère. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur le site internet allumeurs-de-réverbère.fr ou sur les réseaux sociaux. Cette émission a été réalisée par Myriam Samour pour la rubrique environnement Anne-Laure Rousseau, habillage musical par Happy London Cole. Nous vous souhaitons force et courage. Amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine.